Trafic en grande escale. Trafic en grande escale 2022. C'est sur Radar.
Ah là là, on s'en lasse pas, hein. C'est quand même dingue ce truc. Voilà, on est de retour, Fécamp Grande Escale 2022, c'est sur Radar, on vient de vous le dire. Et comme promis, on vous a dit dans un petit quart d'heure, eh ben on est dans le timing, hein. C'est plutôt pas mal, on est avec l'ami Warren. Et il y a Jean-Edouard qui vient de nous rejoindre. Bonjour Jean-Edouard.
Bonjour à tous.
Comment ça va?
Bah, très très bien.
Alors un des nombreux exposants de ce Fécamp Grande Escale, tu t'occupes du Jean Barthes.
C'est ça, le Jean Barthes.
J'ai pas arrêté de teaser ce truc-là en disant « Ouais, on va avoir le gars qui s'occupe du truc parce que c'est vachement bien, c'est une super initiative et tout. » Et moi, ça me fait penser aux châteaux qui sont en train de reconstruire, je sais plus dans quel
c'est
point
dans Lyon,
c'est
dans l'autre. Dans le château de Guédon, ouais, c'est Saint-Fargeau. Mais c'est ça, on est exactement dans la même philosophie de travail puisque c'est un projet d'archéologie expérimentale. C'est-à-dire que le Jean Barthes, tout comme le château de Guédon, une fois terminé, sera vraiment représentatif de ce qu'étaient ces grandes structures à leur époque. Donc on a un collège scientifique qui nous suit, qui vérifie que tout ce qui est réalisé soit similaire à ce qui était fait à l'époque. Et ça, c'est génial parce qu'on va vraiment se replonger dans les origines du métier, mais pas loin. C'est-à-dire qu'on va travailler sur un système de construction qui est très empirique. Mm-hmm. Et alors, nous, on n'a pas poussé le concept comme Guédelon à dire « Allez, on fait tout à la main, tout à la hache, à l'herminette ». Parce que déjà, on n'est que 4 charpentiers à travailler dessus. Mm. Et vu la taille du bateau, il nous faudrait 300 ans pour le faire à 4. Et puis bon, mes bonhommes, ils seraient rincés au bout de 2 ans. Donc on va quand même utiliser l'outil moderne pour tailler les pièces. Mais la pièce, une fois terminée, est exactement la même qu'à l'époque. Les mêmes assemblages, la même forme. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça pousse à l'humilité. Parce que tu te dis, merde, mais comment les gars, ils faisaient à l'époque avec rien, quoi. Ils avaient rien du tout. Ils avaient pas de grue, ils avaient rien. Et ils arrivaient à faire ça en 3-4 ans, alors que nous, ça fait 20 ans qu'on est dessus.
C'est ça.
Et
puis ils ont pas fait qu'un bateau, quoi.
Non, c'est ça. C'est à l'appel, hein. C'était une navire de guerre. C'était fait pour partir à l'abattoir. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que aujourd'hui, nous, on voit ça. Mais comme quand on regarde l'étoile du roi qui est juste devant nous, là, c'est des bateaux qui sont magnifiques. C'est des œuvres d'art flottantes. Bah, à l'époque, c'était fait pour aller se faire couler. C'était fait pour partir en guerre, se faire couler, quoi.
Ouais, ça prenait un temps dingue à être construit pour partir en un claquement de doigts, quoi.
Mais on fait plaisir à reconstruire.
Et
ça,
puis d'évoquer la fin de Guédelon, est-ce que ça sera terminé un jour?
Ah bah bien sûr, c'est
oui. Parce que on a tendance sur ce genre de chantier à vouloir aller toujours un petit peu plus loin, à créer peut-être le village qui va à côté, et puis peut-être on va faire vivre la chose encore et encore et encore.
Tout à fait. Bah, c'est l'essence même du projet. C'est-à-dire que la finalité, c'est une mise à l'eau, évidemment, c'est comme tout. Sauf que l'intérêt, c'est pas l'arrivée, c'est tout le cheminement qu'on va avoir en fait le long de la construction. Les gens aujourd'hui, ils viennent sur le chantier pour voir les artisans travailler. Ils viennent voir du charpentier de marine qui taille du bout de bois. Ils viennent voir les forgerons fabriquer les clous du Jean Barthes à l'ancienne. Et c'est ça qui intéresse les gens aussi, c'est de voir cette construction vivre, ce chantier vivre. Le Jean Barthes, une fois terminé, sera absolument magnifique. Les gens pourront monter à bord. Mais c'est une finalité en soi. Mais c'est pas l'intérêt premier aujourd'hui du projet.
On va faire un petit historique parce que le Jean Barthes, oui. D'accord, toi, ça te cause. Moi... Alors là, j'ai lu dans le prospectus que, voilier maritime emblématique de la grande marine de Louis XIV, mais en même temps corsaire d'un carquois, donc on se mélange un peu les crayons entre les provenances de qui, de quoi, à qui ça appartenait, pourquoi, comment.
Vous y avez pas de soucis. Alors, déjà, un corsaire, pour ceux qui ne savent pas, bon, en Normandie, généralement, même en
Bretagne. Ah, c'est au service du roi, celui-là.
C'est très bien. C'est ça, en gros, hein, si on va essayer de vulgariser un peu la chose, c'est un peu comme un pirate, sauf qu'il travaille pour un roi. C'est un mercenaire qui va travailler pour un roi, donc qui travaille qu'en temps de guerre, et qui est mandaté par le roi, parce qu'on appelle une lettre de marque, qui est un papier officiel signé du roi. Qui disait que le corsaire était bien un corsaire qui travaillait pour lui. Et donc il allait attaquer uniquement les navires ennemis de la couronne. Généralement, on cherchait les navires de commerce, hein, la guerre de course. Donc c'était cette période où les corsaires allaient attaquer les navires marchands ennemis, récupérer les prises, les ramener au roi et toucher une commission sur la prise. Voilà un peu l'idée du corsaire. C'est une piraterie légalisée qui servait à déstabiliser aussi économiquement les États. Et en même temps, bah, ça coûtait moins cher d'aller attaquer un navire marchand qui revenait des Amériques pour récupérer le tabac et le cacao que d'envoyer des navires marchands en Amérique pour les ramener. Parce que c'est à l'époque, fallait plusieurs mois de navigation et dans des conditions qui étaient extrêmement compliquées. Sachant qu'il n'y avait pas de moteur, les bateaux pouvaient rester au moins 6 mois coincés avant de pouvoir prendre la mer. Donc c'était beaucoup plus complexe qu'aujourd'hui où les porte-conteneurs font des allers-retours sans cesse.
Et on a de la chance que ce soit fini ce temps-là en même temps.
Hein. Parce que ça dépend si vous allez vers les côtes africaines.
Ouais, alors, mais par contre, ça reste de la piraterie pure et simple. C'est pas des corsaires, ils sont pas à la solde de...
Après, il y a encore dans toute l'histoire de la piraterie, il y a toujours eu des pirateries qui ont été financées par les États, notamment dans les Caraïbes au XVIIIe siècle. Les Français payaient largement les pirates dans les Caraïbes pour attaquer les vaisseaux espagnols, pour déstabiliser économiquement parlant l'Espagne, parce qu'ils ne pouvaient pas attaquer directement l'Espagne, sachant qu'ils étaient catholiques. Voilà, fallait pas rentrer en guerre contre l'Espagne. Donc, on finançait la piraterie pour déstabiliser les pays. Et c'est des choses qui peuvent encore arriver aujourd'hui. Bon, c'est une autre histoire. Et Jean Bart était un grand corsaire dunkerquois, un peu comme Surcouf et le corsaire des Malouins. Nous, c'est Jean Bart qui est très largement fêté à Dunkerque chaque année et adulé. Et ce qui est intéressant, c'est que, en dehors du fait que ce soit un corsaire, c'est un marin qui est extrêmement important dans l'histoire de France, puisque c'est quelqu'un qui a commencé comme mousse. Il a navigué pour la marine hollandaise sur le 7 provinces, donc l'équivalent du gendarme et de construction hollandaise. Et il était flamand. Flamand mi-français, mi-flamand. Et lorsque la France est rentrée en guerre contre la Hollande, il a dû choisir son pays, et il est venu naviguer pour la France. Donc il a travaillé comme corsaire, il a travaillé dans la marine aussi, et il a gravi tous les échelons petit à petit, jusqu'à se faire anoblir par Louis XIV à la fin des années 1690, suite à la bataille du Texel, et il a fini chef d'escadre de la mer du Nord à Dunkerque. Alors il faut se dire que la mer du Nord à l'époque, la Manche et la mer du Nord, c'était le point le plus stratégique au monde. C'est-à-dire que tous les navires marchands passaient par la mer du Nord. Les trois grosses puissances à l'époque, c'est l'Angleterre, la Hollande et la France. Et donc ce qui les sépare, c'est la Manche et la mer du Nord.
Ça continue encore sur la Manche, il y a un trafic de dingue là.
Mais ça n'a pas changé de toute façon, c'est toujours plus ou moins pareil. Et donc celui qui contrôlait le flux maritime dans la mer du Nord, contrôlait le monde économique. Et donc forcément, tous les corsaires se battaient en mer du Nord pour essayer de gagner de l'espace et réussir à ouvrir les voies maritimes. Et c'est Jean Bart qui, pour la France, avait le rôle de diriger les escadrons en mer du Nord, ce qui n'était pas rien du tout à l'époque.
À quand une adaptation de Disney avec Pirates de la mer du Nord?
Ce serait génial. Et puis on a un super modèle en construction là qui servirait de décor.
Et ouais, voilà, on y vient. Je fais juste une petite parenthèse, on évoquait Surcouf. Je vous présente officiellement le commandant Surkiff.
Le commandant Surkiff, j'adore.
Et lui, le commandant Surkiff, donc Warren, pour ne pas le nommer, s'occupe de la agenda culturel de la radio et avec brio et avec Maestré. Il va à la conquête des événements culturels et il nous les redistribue comme ça chaque semaine. Là, c'est en pause.
Ouais, pour
ça reprendra certainement l'année prochaine. On repart sur le Jean Bart avec tout ce que ça concerne. Alors, en fait, vous êtes pas du coin. Non. J'ai vu que vous étiez du côté du nord entre Dunkerque et Calais. C'est pile au milieu.
Exactement.
Ça s'appelle Gravelines. C'est une ville, c'est un village,
c'est comme... C'est une ville. Alors, aujourd'hui, et puis là, on le voit bien sur les fêtes quand on parle de Gravelines aux gens. La plupart du temps, les gens connaissent Gravelines pour deux choses. Soit la centrale nucléaire, qui est la plus grande d'Europe.
D'accord.
Soit le BCM, qui est l'équipe de basket de la ville, qui était très connue puisqu'elle joue en national. Aujourd'hui, ils sont un petit peu moins bons en ce moment, mais ils ont eu leurs grandes heures de gloire il y a quelques années. Alors, Gravelines, c'est une ville qui est absolument magnifique. J'invite tous ceux qui veulent aller visiter le nord de la France à visiter Gravelines. Elle est entièrement entourée de fortifications Vauban. Elles sont parfaitement préservées. C'est d'une vraie beauté. Et c'est la seule ville en France où vous avez les fortifications Vauban, duquel vous pouvez faire entièrement le tour en bateau.
Ah.
Donc elle est entourée de douves. Et donc à Gravelines, ils louent des petites barques électriques ou des barques à rames. Et vous pouvez faire le tour des remparts en bateau. C'est absolument magnifique.
D'accord.
Et le coin est très très joli. On peut penser ce qu'on veut de Dunkerque, mais il y a de très 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 belles choses à voir par chez nous.
Et justement, avant que de te recevoir, on évoquait justement des plans vacances. On disait, sachant que du coup, alors à chaque fois je me souviens Graveline.
Voilà. Graveline, oui, c'est vrai que c'est compliqué.
Il faut le temps que ça se grave. Il faut que ça se grave. Graveline. Si vous n'avez pas quoi faire de vos vacances, si vous n'avez pas encore pensé à savoir où vous allez, et ben dans le Nord il y a des trucs sympas. Surtout qu'avec le réchauffement climatique, il fait plus si froid que ça. Il faut arrêter avec ces clichés à la noix.
Il fait bien meilleur chez nous que
ce moment. Oui, ouais, c'est clair. Donc et puis, comme tu disais, on peut penser ce qu'on veut de Dunkerque, mais à Dunkerque, au niveau Seconde Guerre mondiale, etc., il y a énormément de choses à visiter aussi.
L'opération Dynamo, on a un très beau musée sur l'opération Dynamo qui explique toute cette histoire. Donc, d'ailleurs, Christopher Nolan a mis ça en lumière il n'y a pas très longtemps avec un film.
Et donc, allez voir ça parce que y a aussi de belles choses dans le Nord. Et du coup, il y a un village artisanal.
Tout à fait.
Et donc c'est ça qu'il faut aller voir vraiment pour comprendre vraiment votre travail, parce que là le stand que vous avez ici à Fécamp Grande Escale, bah, c'est vraiment de la toute petite miniature de, vous êtes 3, 4,
on est 4, 5
voilà, et vous faites une petite démonstration de trois petites choses
pour présenter le projet. Donc on explique aux gens ce qu'il y a à voir. Nos charpentiers sont là, ils taillent un peu de bois pour faire du copeau, ça attire le monde. Et voilà, on peut pas ramener les pièces du vaisseau ici, c'est absolument impossible, c'est intransportable. Donc voilà, on taille un peu de bois pour expliquer un peu comment ça se passe. Et en même temps, là, le but, c'est de faire de la médiation, c'est d'aller voir chercher les gens, leur expliquer ce qu'on fait, leur présenter le projet, leur montrer la maquette du Jean-Bart fini pour donner un peu l'idée de ce que sera le Jean-Bart et leur donner envie de venir voir le vrai bateau. Puisque c'est vrai que je l'ai pas expliqué, je suis parti dans mes explications tout à l'heure sur Jean-Bart, mais
on fera tous les points.
Qu'est-ce que le Jean-Bart ? Le Jean-Bart, c'est un vaisseau de premier rang du XVIIe siècle. Alors, premier rang aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on n'entend plus, hein. C'était une classification de l'époque sur les navires de guerre. C'est que, à l'époque, pour classer un navire de guerre, le donner un nom, aujourd'hui on dirait un porte-avions, un destroyer, frégate anti-aérienne, à l'époque c'était beaucoup plus simple. En fonction du nombre de canons du bateau, on allait lui donner un rang. Donc les plus gros vaisseaux qu'on appelait les premiers rangs allaient de 80 jusqu'à 120 canons pour les plus gros. Ensuite on avait les deuxièmes rangs, 70-80 canons, quatrième rang, cinquième rang, et ensuite les frégates qui avaient 20 à 30 canons. Le Jean-Bart, donc, est un premier rang, il aura 84 canons. C'était les plus gros vaisseaux de l'époque. Typiquement, c'est un navire amiral, navire de commandement. On en avait un ou deux qui dirigeaient la flotte pour partir à la bataille, qui étaient au tout début au premier rang, puisque très lourdement armés, pouvait être très destructeur à distance. Et ensuite, une fois que les lignes ennemies étaient brisées, ils se mettaient en retrait pour servir de bateau de commandement par le biais de drapeaux. Et les petits bateaux comme les frégates ou les cinquièmes rangs montaient eux à l'abordage, allaient au front, alors que ceux-là restaient en arrière. C'est un navire qui fait 57 mètres de long, de la poupe à la proue, donc de l'avant à l'arrière. Et hors tout, avec le mât de Beaupré, donc le mât qui se trouve sur l'avant, on sera à peu près à 75 mètres de long.
D'accord.
C'est absolument énorme. C'est plus grand que le Bélème, pour ceux qui connaissent le Bélème. Il fera 17 mètres de haut. Au niveau du pont supérieur, c'est trois fois plus haut que l'étoile du roi, par exemple. Donc vous avez trois ponts d'artillerie, trois ponts de canon, et vous avez en plus deux ponts sous la flottaison, soit cinq ponts au total. C'est absolument énorme.
Ouais, donc c'est pas un petit projet dans lequel vous êtes lancé.
C'est le plus grand voilier en bois au monde en construction. Alors pour ceux qui connaissent le Victory en Angleterre, qui est un navire qui date de Trafalgar, du 18e siècle, on est un tout petit peu plus petit que le Victory, qui lui est le plus grand voilier en bois au monde.
D'accord.
Donc c'est un beau bébé.
Alors vous donnez combien de temps pour terminer cette œuvre là ?
Alors on va pas se donner un temps, ce serait beaucoup trop complexe. On estime qu'il nous reste encore à peu près 10 ans de construction pour achever la coque et qu'elle soit prête à être mise à l'eau.
À 5.
Comment ? En fait, c'est là toute le comment dire, pas l'ambiguïté, mais tout le problème en fait dans cette estimation, c'est que jusqu'en 2016, on n'avait pas d'argent public. Donc
ouais.
On était en autofinancement quasiment total par le biais de fondations qui nous faisaient du mécénat, des subventions des donations par le biais de fondations. Les membres de l'association, on a à peu près 4000 membres dans l'association. Alors tout le monde ne réadhère pas tous les ans, mais chaque année on a de nouveaux qui disent ah, c'est génial ce que vous faites, allez, je vous donne 10 euros par an pour vous aider, hein, comme pour la Croix-Rouge ou d'autres projets d'intérêt général comme ça. Et c'est ça qui finançait le projet. Bon, forcément, c'est très limitant. On levait 7-8 pièces par an sur le Jean-Bart, pas beaucoup plus. Là, maintenant, depuis 2016, on a les soutiens de la communauté urbaine de Dunkerque, du CIVOM de là également, qui est le syndicat intercommunal autour de Gravelines. Et depuis décembre 2018, la région des Hauts-de-France, qui soutient le projet aussi financièrement. Ce qui fait que déjà, on a un souffle d'air plus important. Et l'année dernière, par exemple, on a levé sur une année, alors pas une année calendaire, mais entre mi-2020 et mi-2021, on a levé 86 pièces sur le navire. Mmh. Donc on avance vraiment beaucoup plus vite. Alors oui, on n'est que 4 charpentiers à travailler dessus, mais le but étant qu'aujourd'hui, on travaille avec les collectivités territoriales sur un gros projet. Donc là, aujourd'hui, on parle de village artisanal. Mmh. Plus tard, on va parler de parc à thème.
D'accord. Vraiment. Ah oui, c'est.
J'ai pas le droit de vous donner des exemples.
Ok.
Mais tout le monde connaît les grands parcs à thème autour des métiers, autour d'une époque médiévale.
D'accord. Ouais, ouais.
Donc là, okay. Ce sera sur les corsaires et la marine de Louis XIV. Mm-hmm. Et donc les gens viendront s'immerger dans un arsenal de l'époque avec tous les corps de métiers qui travaillaient sur le vaisseau.
Mais il y aura pas de notion de spectacle.
Si. Tout à fait. Il y aura des notions de spectacle justement. D'accord. Donc ça, c'est l'idée de la finalité du projet en général. Mm-hmm. Donc là, on est sur un très très gros projet qui est en cours d'étude justement, une réflexion. Aujourd'hui, on n'y est pas encore, mais dans cette idée-là, ce ne sera plus 4 charpentiers qui travailleront sur Jean Bar, mais peut-être 15. Mmh. Parce qu'au final, demain, vous me donnez 20 charpentiers et une centaine de bois par an, le Jean Bar pourrait très bien être fini en 5 ans. Mmh. Les connaissances, les savoir-faire, on l'a. On sait construire des navires comme ça, puisque c'est ni plus ni moins qu'un très gros bateau. Le plus compliqué, c'est d'avoir les plans et les pièces d'époque. Mais ça, aujourd'hui, on travaille avec notre collège scientifique, avec des historiens, des archéologues, qui nous fournissent au fur et à mesure les plans, qui nous fournissent au fur et à mesure les pièces, les types d'assemblage. Donc ça, c'est ce qui nous manque. Voilà, mais on peut l'avoir très vite. Ce qui manque aujourd'hui, c'est les moyens de pouvoir tailler les pièces, de pouvoir acheter du bois pour le faire, puisqu'on va tout faire de A à Z. L'arbre, on va nous-mêmes le sectionner en forêt pour trouver l'arbre qui est naturellement la forme de la pièce pour pouvoir la tailler dans le cœur de l'arbre. On va scier l'arbre, on va tracer la pièce, la tailler, la lever sur le bateau, on forge nos clous. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est de la main-d'œuvre et de la matière première. Et aujourd'hui, on n'a pas les moyens de pouvoir employer plus et avancer plus vite. Mais en soi, les 10 ans... Dans l'optique où chaque année on a de plus en plus de visiteurs, on a de plus en plus de monde qui viennent nous soutenir, je pense que c'est tout à fait réalisable.
Alors il y a des tas de questions qui viennent au fur et à mesure du discours que tu tiens. On parle de financement, donc forcément, tout à l'heure tu disais je vais vous donner 10 euros par an. C'est pas des petites sommes, hein. C'est pas négligeable, 10 euros, même 1 euro par an. Chaque euro compte pour faire en sorte que ce projet avance. On a beau avoir aussi le soutien de certaines communes ou agglomérations, etc., ou régions. Mine de rien, l'argent, c'est une chose, mais les bras, c'est encore autre chose. On a toujours besoin de bénévoles dans ce genre de choses.
Exactement.
Et puis, j'imagine que dans ce village, vous faites un peu aussi de prévention, mais c'est pas du tout ça, d'initiation.
Tout à fait. Alors, on peut pas se permettre de le faire beaucoup. Trop, puisqu'encore une fois, si on a 4 charpentiers, si on accueille trop de personnes qui ne savent, entre guillemets, pas travailler, hein, c'est pas péjoratif, mais donc nous, on prend le temps de former les gens, de leur expliquer comment travailler, et forcément, plus on a de gens qui viennent en bénévole, qui n'ont pas forcément beaucoup de connaissances, moins on va nous travailler sur le bateau, donc on essaie de faire ça avec parcimonie, prévention, mais c'est ça l'intérêt du projet. On veut le faire parce que...
C'est une transmission de savoir, exactement. Finalement, de A à Z.
C'est la base du projet. L'intérêt du projet, c'est ça. C'est pas juste d'avoir un gros bateau qui flotte, c'est tout le côté humain qui est dedans, de faire de la formation, puisqu'on accueille tous les ans des apprentis charpentiers de marine qui viennent se former chez nous en charpente navale. Donc là, en ce moment, on a Achille, qui est notre apprenti charpentier, qui est là pour 2 ans, et qui passe son BP de charpente navale, donc via le lycée de Cherbourg, le lycée des Cœurs de Ville, Doucet. On a tous fait le lycée de Cherbourg.
D'accord. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent du compagnonnage?
Alors, oui et non. Comment chez les compagnons, vous n'avez pas de corporation des charpentiers de marine, ce qui est absolument débile en
c'est
soi.
C'est fou, ça.
C'est un des plus vieux métiers.
Parce qu'en termes de charpente, ça va.
Alors, eux, c'est charpente traditionnelle.
Oui,
c'est du bâtiment. Alors, après, oui, c'est d'église.
Je pense à Mont-Saint-Aignan, entre autres.
Mais il n'y a pas de charpentier de marine. Moi, par exemple, personnellement, j'ai fait ma formation de charpente traditionnelle chez les compagnons, qui est de l'association des compagnons du devoir à Villeneuve-d'Ascq. Mais je n'ai pas fait le Tour de France parce que je voulais être charpentier de marine.
D'accord.
Et donc. Moi, je voulais, travailler dans une église, une cathédrale, j'aurais vraiment pris mon pied, mais je voulais faire du bateau et il n'y a pas de corporation de charpentier marine. Donc, je ne suis pas fait le Tour de France, je suis parti à Cherbourg pour faire mon BP de charpente navale.
Okay.
Mais par contre, on accueille tous les ans, presque tous les ans, mais sinon c'est plus ou moins tous les ans, un compagnon charpentier pendant 6 mois, mm-hmm. pendant son tour de ville d'été, généralement c'est plutôt sur la saison de l'été, donc c'est du mois de mars à Saint-Joseph jusqu'à la fin du mois d'août, et le compagnon va venir travailler chez nous sur les pièces du Jean-Bart, et en fait s'ils viennent chez nous c'est pour apprendre à tailler du bois courbe.
D'accord.
Puisque en charpente traditionnelle vous faites que du droit, c'est mm-hmm. une pièce très droite.
Alors ça j'entendais ça dans une conversation que tu tenais hier avec une personne justement qui était là, ah oui mais alors attention faut pas prendre tout le bois parce qu'on va plus en avoir pour Notre-Dame et puis on va plus en avoir pour les églises etc. Et t'expliquer justement très bien qu'il y a une grosse différence entre le choix des bois. Tout à l'heure tu l'évoquais aussi dans le fait d'avoir si on a un arbre qui est dans la courbure pile de ce dont on a besoin, autant utiliser celui-là plutôt que d'essayer de le déformer, quoi.
Exactement. Puis vous pouvez pas déformer un chêne de cette taille-là. C'est-à-dire que vous pouvez tuver des pièces. Par exemple, si vous voulez cintrer un bordé sur un navire comme ceux que vous avez là, vous les tuvez, donc vous le passez soit dans l'eau bouillante, soit à la vapeur d'eau pour détendre la fibre du bois. Vous le cintrez et une fois qu'il refroidit, il garde sa forme. C'est le principe de l'étuvage. Nous, nos pièces, elles vont faire 30 cm de section. Ce serait impossible. Alors il faudrait des mois et des mois de cintrage. Ce serait impensable. Mm-hmm. Donc on vient faire ce qu'on appelle une membrure sciée. Donc on vient chercher une branche charpentière. Alors, ça, sur les bateaux, on dit une branche charpentière sur un bateau normal. Bon, nous, c'est pas une branche, hein, c'est un tronc qui est naturellement poussé courbe pour venir récupérer la forme dans le fil du bois et garder toute la résistance mécanique. Donc, tous ces arbres, nous, qu'on va prendre, c'est des arbres que personne ne veut. Donc, l'ONF avec qui on travaille est très content de nous les vendre parce qu'on est les seuls qui veulent assécher ces arbres-là. Sinon, les autres, tout le monde n'en veut pas parce que dans une courbure, vous perdez énormément de matière. Donc, c'est beaucoup moins rentable pour le scieur.
Et le marché du bois, comment ça se passe aujourd'hui, justement, pour ce type de projet Enfin, on sait que les matières premières, ça devient compliqué.
Le problème, c'est surtout au niveau du prix, puisque les cours sont en train de monter, donc forcément tout le monde subit la hausse du cours du bois. Alors après, on a énormément de chance, que ce soit nous ou Notre-Dame aussi, c'est que normalement, les bois qui sont vendus par l'ONF, alors je parle de l'ONF, hein, nous on travaille pas avec les privés, déjà pour une question de philosophie, c'est que l'ONF va gérer durablement ses forêts. C'est-à-dire que tous les arbres qu'on va prendre proviennent de ce qu'on appelle des parcelles de régénération. Mmh. C'est-à-dire qu'ils viennent couper des vieux arbres. Alors partout, ils ne coupent pas toute la parcelle. Ils sélectionnent les arbres qui sont les plus gênants, donc souvent les plus touffus, parce que les arbres sont des feuillus, hein, les chênes. Donc ils cachent la lumière pour toutes les jeunes pousses qui commencent à grandir et qui ont besoin de lumière pour grandir. Donc on éclaircit la forêt, donc on coupe les vieux pour laisser la lumière aux jeunes pour pouvoir grandir et faire en sorte que la forêt se régénère. Mmh. Donc ça, c'est du développement durable, c'est purement écologique. Et donc on travaille avec ça pour l'ONF avec ça. Mais normalement, l'ONF vend ses arbres par lot et aux enchères. Donc c'est des catalogues, hein, qui sont envoyés aux acheteurs. Vous avez lot numéro 1, vous avez autant d'arbres dedans, à peu près autant de volume de bois, de telle qualité. Et voilà. Et puis après c'est des enchères, c'est au plus offrant. Voilà. Donc nous on serait incapable de lutter contre les Chinois, surtout eux qui rachètent la plupart des bois français. Ce serait impossible. Sauf qu'il y a une loi en France qui date du code Napoléon, qui dit que pour des projets d'intérêt général à but de défense du patrimoine ou de la culture française, ces projets-là sont prioritaires sur l'achat des bois à l'ONF, peuvent passer donc en priorité et n'achètent pas par lot, mais peuvent acheter à l'unité et non pas aux enchères, mais par négociation directement avec la direction commerciale de l'agence de l'ONF.
Merci Napoléon pour le coup. Non,
exactement. Si cette loi avait été abrogée, on ne serait pas là aujourd'hui.
Il n'y a pas que des lois Eliot sous son règne à lui.
Mais complètement. Et donc nous, en fait, avant tout le monde, lorsque les bois ont été sélectionnés par les techniciens forestiers, avant que les bûcherons passent, on va dans les forêts. Donc on travaille beaucoup avec les forêts de Picardie, Là aujourd'hui, on travaille exclusivement avec la forêt de Retz, à Villers-Cotterêts.
D'accord.
On a travaillé beaucoup avec Compiègne et Saint-Gobain aussi, mais c'est la même agence, hein, c'est l'ONF Picardie. C'est juste qu'eux savent quel bois on recherche et on a déjà plus ou moins épuisé les stocks de bois courbe sur Compiègne et Saint-Gobain. Donc dans 5-6 ans, il y a de nouvelles parcelles qui vont s'ouvrir là-bas où on pourra aller. En attendant, là, on travaille sur Villers-Cotterêts. Et enfin bref, on passe avant. Donc après que les techniciens forestiers ont sélectionné les arbres, on va avec eux là-bas, on voit les arbres qui nous intéressent. Ces arbres-là sont marqués JB. Donc si vous allez vous promener dans la forêt de Retz et que vous voyez un arbre avec marqué JB2, par exemple...
C'est pour le Jean-Bart.
Si vous voyez un arbre, alors que là, c'est pas sur Villers-Cotterêts, mais si vous allez plus dans les forêts au nord de Paris et vous voyez un arbre avec marqué ND, ce sera Notre-Dame.
Ah, okay.
Et donc quand les bûcherons viennent abattre ces arbres, tous les arbres marqués JB sont mis de côté.
Okay.
Nous, on retourne ensuite les voir en bordure de route, donc couché au sol. Et c'est là où on va valider
faire votre
avec
choix, ouais.
Voilà, dire bah, celui-là, au final, non, il nous plaît pas parce qu'il est vrillé, donc ça va pas dans le fil du bois. Donc ça, c'est voilà. Après, ils sont renvoyés dans les lots et revendus avec les autres. Et on va aussi négocier le prix. Et là, alors les gens souvent disent, mais ça coûte combien un arbre ? On est incapable de vous le dire pour plusieurs raisons. Bon, déjà, la première, c'est qu'il y a une clause de confidentialité sur les prix, puisque comme on passe par négociation, évidemment, on n'est pas sur les prix des enchères, même si ça s'en rapproche quand même. Et il y a quand même un cours du bois, mais c'est souvent plus intéressant quand même, mais surtout parce que deux arbres de la même taille, même volume, exactement les deux mêmes, peuvent avoir un prix qui peut aller du simple au triple en fonction de la qualité. Et deux bits de bois peuvent avoir plusieurs qualités différentes. Ça peut avoir une qualité magnifique sur un mètre, ensuite une qualité un peu moins belle sur trois mètres, puis re un mètre de magnifique, puis deux mètres de pas joli du tout, puis re un mètre de pas trop mal. Et donc ça, en fait,
tout dépend de son histoire, finalement.
Exactement. Alors, nous, on est sur des arbres qui, souvent, ont été beaucoup mitraillés pendant la Première et Deuxième Guerre mondiale, puisque les forêts typiques, Saint-Gobain, Villers-Cotterêts, ont subi beaucoup d'attaques, donc on retrouve des trucs incroyables dans les arbres. On a retrouvé un fer à cheval, des éclats d'obus énormément. Ouais.
Faites pas votre marché à Verdun.
Non, bah, il n'y a plus beaucoup d'arbres à Verdun, de toute façon, je crois.
Ah, il reste. Bah, en fait, la forêt repousse. Là, elle est en train de reprendre un petit peu ses droits. Mais il reste encore des arbres un peu historiques où effectivement, il y a des éclats de tout et de tout ce qu'on veut. Je reviens sur alors, il y a deux points que je voudrais encore aborder. Le côté historique de la chose, parce que vous travaillez avec des historiens, etc. Et on parlait de spectacle par la suite. Est-ce que ce spectacle va être aussi travaillé avec des historiens, dans le sens de ce qui s'est réellement passé en France à cette époque et sur ce navire en particulier?
Alors, c'est une très bonne question. Et aujourd'hui,
est-ce que c'est important, ça?
Absolument incapable d'y répondre.
On ne sait pas.
Pour la simple et bonne raison que là, on sera dans la finalité du parc à thème. À ce moment-là, les gestionnaires du parc, ce seront des gros groupes.
Ouais.
Nous, on est incapables.
Mais c'est ça qui fait un peu peur, en fait.
C'est ça. Mais c'est pour ça que l'intérêt, c'est. Là aujourd'hui, donc c'est mon père qui a lancé tout ce projet-là.
D'accord.
Et là, fin d'année, il part en retraite. Il va laisser un peu tout ça de côté pour suivre ça de loin et écouler des jours heureux, profiter de sa retraite, puisqu'il l'a très largement mérité. Et donc, il me passe la main. Et donc, l'intérêt, c'est que moi, je reste dans le projet pour toujours garder la philosophie du projet, pour pas que ça change, puisque évidemment l'idée du parc à thème, là on est sur un projet à plusieurs dizaines de milliers de millions d'euros. Nous, on est incapable de faire ça. On est une petite association qui sommes partis de rien du tout. Aujourd'hui, ça avance de plus en plus. On devient une grosse association, mais ça reste une association. On est incapable de trouver 12 millions d'euros ou 20 millions d'euros pour investir dans un parc comme ça. Donc forcément, faut qu'un gros groupe arrive et dise voilà, nous on investit pour créer les infrastructures. Alors après, le but c'est que les collectivités territoriales, la région, la communauté urbaine de Dunkerque, la ville de Gravelines, soient également actionnaires dedans, puisque c'est un projet de développement territorial. Donc ils veulent avoir la main sur ça, et eux veulent garder cette philosophie, puisque tout l'intérêt du projet, c'est l'aventure humaine. C'est pas Walt Disney, c'est pas un bateau en carton-pâte, c'est pas ça. On aurait très bien pu faire un truc en contreplaqué qui a l'air énorme et voilà, pour attirer du monde. C'est pas l'intérêt. Là, ils ont bien compris que l'intérêt du projet, ce qui fonctionne, c'est déjà le storytelling, c'est raconter une histoire de quelque chose qui a vraiment existé, non pas juste quelque chose de fantaisiste, parce que ça, il y a plein d'autres endroits où ils le font. C'est aussi l'aventure humaine qu'il y a derrière, c'est toute cette historique qui est intéressant, comme au château de Guédelon. Château de Guédelon, ils y arrivent, ils font 300 000 visiteurs par an, ce qui est absolument énorme. Plein milieu de la Bourgogne, mais je sais pas si vous avez déjà été à Guédelon, c'est paumé. Moi, quand j'y étais,
c'était
des heures dans la forêt, je suis perdu, je suis où? Et là, pouf, on arrive là, entouré de nulle part, au milieu de nulle part, ce truc extraordinaire qui est là.
Et ça fonctionne.
Et 300 000 visiteurs, c'est énorme, c'est une très très grosse structure. Donc nous,
ils font pas le spectacle
du Carrefour européen. Non, mais comme quoi.
Mais en fait, le spectacle de l'histoire est finalement ce qu'il y a de plus efficace.
Tout à fait, mais tout à fait.
Donc
ce sera travaillé à ce moment-là, ce sera écrit. Après, il y a quelque chose qui est prévu. En tout cas dans ce projet de parc à thème, c'est d'avoir une salle de réalité virtuelle où les gens vont pouvoir, avec des casques de réalité virtuelle, se plonger au cœur d'une bataille navale. Alors on pense à la bataille du Texel, qui est une bataille importante pour les Dunkerquois, et c'est notamment la bataille qui a valu à Jean Bart de se faire anoblir par Louis XIV, puisque c'est lui qui dirigeait la bataille et qui a fait vraiment un coup de maître, puisqu'il est parti avec très peu de frégates attaquer un énorme convoi de blé que les Anglais nous avaient volé et qui était très bien protégé, et avec juste beaucoup
les
de stratégie
salauds.
Et énormément de talent, il a réussi à tromper tout le monde et à récupérer tout le chargement, et il est revenu à Dunkerque avec ses énormes bateaux remplis de blé, sachant que cette année-là, la France est en train de mourir de famine, et donc il est arrivé comme un héros à Dunkerque avec, tenez, v'là du pain, v'là du blé, et il a sauvé, entre guillemets, la France de la famine. C'est en tout cas, c'est ce que la légende raconte. Et donc, cette bataille du Texel, qui était une très très grosse bataille, bah, le but c'est de la faire vivre aux visiteurs grâce à la réalité virtuelle, puisque même si c'est un projet qui est très historique, très authentique, très traditionnel, on ne veut pas opposer la modernité au patrimoine. Il faut justement utiliser la modernité pour faire vivre le patrimoine.
C'est ça. Quand les outils d'aujourd'hui rencontrent les outils d'hier pour justement subsister et faire comprendre un petit peu tout ce qui s'est passé. Je reviens sur le dernier point que je voulais aborder. Et là, c'est la mise en avant aussi des métiers et de l'histoire de ces métiers. Alors, on parle de charpentiers et de travailleurs de bois, mais on a des maréchaux, on a des forgerons, forcément on a des gens qui font des cordes, on a des gens, et tout ça c'est un savoir qui s'est transmis ou qui est en train de plus ou moins de se perdre. Comment on va chercher tous ces trucs là, comment on retrouve les gestes d'antan, parce que c'est pareil, manier un outil, il y a beaucoup d'erreurs pour réussir à faire quelque chose de qui tienne la route. Si on se foire sur ne serait-ce qu'un tasseau ou une planche ou n'importe quoi, on met à l'eau, crac, ça pète. Donc voilà, c'est tout un truc à réapprendre, j'imagine.
Mais alors, pas tant que ça. En fait, c'est très bizarre. Hein. Mais un charpentier de marine d'aujourd'hui travaille exactement comme un charpentier de marine d'il y a 300 ans.
D'accord.
Ses outils ont changé, mais même si aujourd'hui sa scie est électrique, le geste est le même, en fait.
Mais on fait perdurer, en tout cas.
Le but, c'est de faire perdurer le métier. C'est comme pour forger les clous. Aujourd'hui, un forgeron, n'importe quel forgeron, même un coutelier, est capable de forger un clou pour le jambard. Le tout, c'est de lui donner les plans du clou. Après, c'est le travail de la matière est exactement le même. Alors oui, il n'y a plus beaucoup de forgerons aujourd'hui. Ça
ouais, mais imaginez quand même, on est en train de parler de plans de clous. Un plan de clou, c'est-à-dire que vous allez à le roi Merlin, le plan du clou, vous en foutez, mais royal, quoi. Alors que, voilà, il y a des forgerons qui se prennent la tête dans les arrêtants. Ils doivent être de cette taille-là, avoir un écart entre la pointe et la tête de tant de degrés de...
C'est un peu ça, ouais. Mais alors, ça en soi, on serait même pas obligé de le faire. C'est juste parce que les historiens, les archéologues ont retrouvé donc les clous sur des épaves, notamment les épaves de la Hougue, hein, à Saint-Val-la-Hougue. Moi, m'ont fourni les plans archéologiques des clous en disant voilà, nous, ce qu'on a retrouvé, c'était comme ça. Mm-hmm. Donc nous, on fait comme ça. On utilise vraiment ce qui était fait à l'époque. Alors même si le matériau aujourd'hui a changé, les clous du jambard ne sont pas exactement les mêmes qu'à l'époque, dans le sens où au XVIIe siècle, on utilisait du fer doux. C'est ce qu'on trouvait, c'est du fer pur. Aujourd'hui, ça se trouve plus, et on va pas demander à des aciéries de nous couler des barres de fer doux juste pour nous. Ça coûterait une fortune, donc on va utiliser de l'acier commun qu'on peut trouver. Donc on prend le plus doux possible, mais c'est de l'acier avec adjonction de carbone comme on peut trouver partout. Donc voilà, même si l'acier n'est pas exactement le même, mais en soi, on va essayer de se rapprocher au maximum de la vérité historique. Et après, c'est pareil, vous dites oui, on a un plan côté du clou, mais à l'époque, les mecs, ils s'en fichaient. Le gars, il fait une pointe de diamant, ils sont clous, ils devaient faire plus ou moins telle taille, mais si c'est 2-3 cm de plus.
Oui, tant que ça plante, tant que ça tient le truc.
C'est exactement ça.
On est d'accord.
Dans l'idée, on reste sur l'artisanat. Les gars, à l'époque, ils s'en fichaient royalement de savoir si le clou était vraiment à la bonne taille ou pas. Les forgerons faisaient des clous en série, il fallait que ça soit plus ou moins de telle longueur, plus ou moins comme ça. Donc voilà, nous, on va essayer de. On va être trop puriste dans l'idée, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire exactement le dessin de l'archéologue, parce que c'est ce qu'il a retrouvé, donc on va faire exactement le même. Mais dans les faits, c'est différent, c'est comme les pièces du bateau. Nous, aujourd'hui, on va travailler les pièces du bateau à partir de plans qu'on a reconstitués. Les pièces sont taillées au millimètre, avec des angles parfaits. Voilà, les pièces aiment parfaitement s'emboîter, chacun à sa place. À l'époque, les gars, ils n'avaient pas de plans. Ils ne savaient pas faire des plans encore à l'époque. Le métier d'architecte naval, les prémices des plans sont arrivées à la fin de la première moitié du 18e. Donc, sur les épaves de la Hougue, on a retrouvé des pièces qui étaient coupées en plein de morceaux, rafissolées avec des clous. Quand la pièce était trop courte, ou quand on avait utilisé la pièce d'un autre bateau qui avait été démantelé, on clouait des bouts de planches dessus pour faire cale d'épaisseur, pour clouer le bordé. C'était un peu du grand n'importe quoi, hein, mais ils savaient que le bateau allait couler 6 mois après. Donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est de l'ébénisterie de marine, entre guillemets, qu'on va faire par rapport à ce qui était fait à l'époque. Les pièces n'étaient pas bien coupées à la bonne taille. Quand vous regardez les dessins, les gravures d'époque sur la construction, c'est tout beau, tout propre, mais c'est des dessins qui étaient dessinés pour le roi ou pour les nobles, pour montrer qu'ils sont beaux nos bateaux. Mais dans les faits, il fallait juste construire vite et bien pour que ça puisse flotter et partir en guerre et charger surtout 84 canons et 700 bonhommes à bord. Donc nous, on va essayer de faire quelque chose de très puriste, parce qu'on a aussi un souci d'entretien. C'est qu'à l'époque, un navire comme le Jean Bart,
Oui, c'était pas voué à tenir des années et des années.
La moyenne de vie, c'était 12, 13 ans, voire 15 ans pour les plus belles constructions. Au bout de 15 ans, on désarmait le bateau, on le démontait, on récupérait ce qu'on pouvait pour faire un nouveau bateau, parce que le bateau pourrissait en mer. Et voilà, nous, on a quand même un vrai souci d'entretien, c'est qu'on va pas mettre 30 ans à construire un navire pour le démanteler au bout de 15 ans. Le but, c'est qu'il tienne le plus longtemps possible, donc on va avoir un souci de conservation qui est bien plus important. Et ce qui fait que des fois, on va se permettre des toutes petites déviations par rapport à la réalité historique, mais qui sont validés par nos historiens pour des raisons pratiques de conservation. C'est pour ça qu'on dit, c'est pour ça que j'aime bien dire que le Jean-Bart sera identique à 99,9%.
On pourrait en discuter encore pendant des heures et des heures, tellement c'est passionnant, tellement on apprend des trucs.
Je t'ai prévu que je parlais beaucoup.
Ah, mais c'est très très bien, c'est juste ce qu'il nous faut, parce que là on a toutes les précisions nécessaires. Et puis cette histoire, ça m'en rappelle une autre quand on évoque le démantelage des bateaux. Est-ce que tu connais celle l'histoire du bateau de François 1er dans le port du Havre?
Non, du tout.
Alors, figure-toi qu'il était en bis-bis toujours avec les Anglais, et qu'en face on avait un énorme navire, mais tellement gros que François 1er s'est dit mais on va en faire un encore plus gros, et il fait venir des bois, etc. Ça dure des années de construction, le truc est énorme, il y a une chapelle dedans, il y a une forge, limite une piscine, c'est vraiment le truc pas possible, c'est une histoire vraie, hein. Et au final, le truc, on l'inaugure en grande pompe, on le met à l'eau, mais il peut pas sortir du port, il est trop gros.
Oh merde.
Comment on va faire? Eh ben, on va le démonter, et c'est ce qui fait les charpentes du quartier de l'Eure actuellement au Havre.
D'accord.
Donc les maisons historiques du quartier de l'Eure du Havre sont faites avec le bois du bateau de François 1er qui a jamais pu sortir du port.
Je connaissais pas cette histoire.
Voilà, fais des petites recherches, vous allez voir, c'est assez impressionnant comme truc.
Ça,
voilà. Génial. Merci Jean-Edouard en tout cas pour toutes ces précisions. Où est-ce qu'on peut envoyer des dons? Comment on vous retrouve, etc. On refait un petit coup de promo.
C'est super sympa. Il y a plusieurs choses. Si vous voulez nous soutenir, et là je vous en remercie d'avance,
allez-y.
Allez sur notre site internet, c'est espacetourville.com. Et là vous allez avoir pas mal de choses déjà pour les visites, pour découvrir un peu notre site. Vous pouvez faire la visite du Jean-Bart en interactif. Alors si vous avez des lunettes de réalité virtuelle, ça marche aussi.
Super.
À 360 degrés. Alors la vidéo a déjà elle date d'avant Covid, donc le bateau a quand même bien avancé depuis, mais ça donne déjà l'idée. Vous êtes à l'intérieur du bateau, vous tournez la tête, vous êtes comme si vous étiez à l'intérieur, c'est extraordinaire. Et puis voilà, vous aurez pas mal d'autres informations. Et il y a une page Nous soutenir où vous pouvez faire un don à l'association, sachant que comme c'est un projet d'intérêt général, c'est déductible des impôts à 66%, comme la Croix-Rouge, Emmaüs.
Ouais. Ne vous privez donc pas, vous soutenez le patrimoine tout simplement.
C'est ça. Et pour ceux qui veulent de la vidéo, de l'image, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à notre page Facebook, Espace Tourville. Là, vous aurez plein d'images, plein de vidéos. C'est beaucoup plus simple. Et plus à faire vivre que sur le site internet. Donc vous aurez pas mal de trucs sur
Facebook. Est-ce qu'il y a un compte Insta du Jean-Bart?
Ouais, on a un compte Insta Espace Tourville. Tout est étonnant, Espace Tourville.
Espace Tourville, notez ça dans vos plaquettes. Allez visiter un petit peu tout ça. Vous allez suivre l'évolution de la construction de ce bateau, de ce navire dont on vous a raconté toute l'histoire. Merci encore une fois Jean-Edouard pour l'ensemble de ces précisions. On va te laisser retourner à ton stand et continuer à faire ce que tu dois.
Eh bien, un très, très grand merci à vous et une très bonne journée. Profitez bien, on a un temps magnifique.
Ouais, venez nous rejoindre, c'est super. Ouais, Warren, tu voulais rajouter un truc? Non, tu finis ta nuit,
non,
toi.
Non, c'est clair, c'était intéressant. Puis du coup, j'ai rien à rajouter.
Petite révision vraiment d'histoire, c'est plutôt ça. Pas mal. Eh ben, on va faire une petite pause musicale parce que mine de rien, ça fait un petit peu plus d'une trentaine de minutes qu'on cause et 30 minutes à la radio sans musique, on n'a pas trop l'habitude chez nous. Donc, on va vous en remettre un petit coup. On se retrouve dans. On va pas vous donner d'heure. Hein. Franchement, restez à l'écoute de Radar.
Il est possible que le commandant Surkif fasse une petite chronique cet après-midi.
Si le commandant Surkif se met à vouloir faire des petits trucs, c'est d'autant plus agréable. On vous laisse en compagnie, en tout cas, du programme musical qui défend la Normandie dans son ensemble avec les artistes de la région. On se retrouve évidemment, restez à l'écoute. Voilà, allez, restez avec nous. Allez, des bisous.
Fécamp Grande Escale 2022. C'est sur Radar.